Paris, 15 à Marseille.
Chaque heure compte. Passez à l'action avec Bougardier. Des financements sur mesure pour les audacieux, de l'hypothèque à la fiducie sûretée. Et c'est sur bougardier.fr.
Mardi 15 avril 2025, merci d'écouter Radio Classique. Il est 8h.
7h, 9h, la matinale de Radio Classique. Avec Marc Bourreau.
Et Virginie Fulpa pour le journal.
La Légion d'honneur pour les rebâtisseurs de Notre-Dame de Paris, 6 ans après l'incendie. Emmanuel Macron décore une centaine d'artisans. Être pédagogue pour expliquer que tout va mal. François Bayrou organise ce matin sa conférence sur les comptes publics. Et puis vers une victoire historique contre le cancer, le Danemark devrait vaincre le cancer du col de l'utérus d'ici 15 ans.
À suivre, une semaine d'accalmie et le bras de fer redémarre entre la France et l'Algérie. Avantage Retailleau dans l'édito politique de Guillaume Tabar. Enfin, la Chine a-t-elle perdu ses nerfs dans la bataille des droits de douane? C'est tout le contraire, nous dira l'économiste Jean-Paul Chang, mon invité à 8h15. À la une, Virginie, Emmanuel Macron décore ceux qui ont rebâti Notre-Dame de Paris.
Et c'est le genre d'anniversaire où on est aussi effrayé que fier. Il y a 6 ans, un incendie ravageait une partie de Notre-Dame, l'effroi, puis le travail précis, acharné d'architectes, de charpentiers, de restaurateurs d'art. Et la renaissance de la cathédrale, le président va remettre la Légion d'honneur à une centaine d'artisans. Parmi eux, Émile Armand Benoît, ce couvreur a participé à la restauration de la flèche de Viollet-le-Duc et il travaille toujours sur le chantier.
Je ne réalise pas encore, je verrai ça tout à l'heure. Je suis très conscient que cette Légion d'honneur n'est pas pour moi, mais elle est vraiment pour tous les couvreurs. Je n'ai pas l'impression d'être méritant ou d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel. J'ai fait mon travail, je suis content d'être là tous les jours. Je pense que pour moi, le meilleur moment du week-end, c'est le lundi matin. J'apprécie vraiment d'être là, de pouvoir donner un petit peu tout mon corps et mon âme pour la restauration de ce chantier. Cela fait à peu près 2 ans que je suis sur le chantier. Cet été, on aura certainement posé le dernier morceau de plomb. Je serai rassuré, satisfait. Je partirai le cœur heureux de voir cela après.
Des propos recueillis par Lauriane Toulmont. Notre-Dame de Paris a rouvert en décembre et chaque jour, 30 000 visiteurs s'y pressent. On a aussi un budget 2026 à construire et ça va être désagréable. François Bayrou préfère nous le dire tout de suite. Le Premier ministre convoque sa conférence sur les comptes publics ce matin à 11h dans une annexe de Matignon. Il veut nous préparer à nous serrer la ceinture. Au bout, il y a 40 milliards d'euros d'économies à faire, Charles Ducrot.
Point d'étape, clarification, le descriptif de Matignon reste léger. Un ministre préfère parler d'état des lieux de nos finances publiques sans donner davantage de détails. Il ne faut s'attendre à aucune annonce. L'objectif, c'est une prise de conscience de ce que coûte le déficit aux Français et ce qu'il va coûter à leurs enfants, poursuit ce membre du gouvernement, aux yeux de qui François Bayrou fait œuvre utile après les années insouciantes de ses prédécesseurs. Mais déjà, le vocabulaire du ministre de l'économie donne une idée de la tonalité de cette séquence. D'une heure et demie en théorie, passer du quoi qu'il en coûte au quoi qu'il arrive, un état d'urgence budgétaire pour trouver ces 40 milliards d'euros d'économies, tout sera mis sur la table, promet l'entourage de François Bayrou, y compris des efforts demandés aux retraités ou encore aux collectivités locales. Et sans oublier aussi l'effort de défense, le tout sur fond de guerre commerciale d'un côté et de gros enjeux politiques de l'autre. Pour François Bayrou, dont la popularité est au plus bas, est toujours menacée d'une motion de censure.
L'Association des maires de France a décliné l'invitation à cette conférence. Elle dénonce un exercice de communication. 1500 communes françaises n'ont pas d'assurance. Avec le dérèglement climatique, il y a de plus en plus d'inondations, notamment, et les assureurs ne veulent plus couvrir les risques ou alors à des tarifs exorbitants. L'État vient à la rescousse en créant une cellule d'accompagnement des collectivités chapeautée par le médiateur des assurances.
8h03 sur Radio Classique. L'Observatoire Copernicus a publié ce matin son rapport annuel, Virginie.
Et pas une surprise, 2024 a été l'année la plus chaude de l'histoire. Chloé Sénard, on retient aussi que l'Europe a subi des inondations historiques.
Près d'un tiers du réseau fluvial européen a été inondé l'année dernière. Les dégâts ont été particulièrement importants dans la province de Valence en octobre dernier en Espagne, ou encore dans le nord de la France au mois de mars et mai, où des torrents d'eau ont ravagé habitations et paysages. En tout, plus de 400 000 personnes ont été affectées par les inondations en 2024, pour un coût des dommages estimés à 18 milliards d'euros. Ces catastrophes sont liées à l'augmentation de la température, car une planète plus chaude absorbe plus d'eau dans l'atmosphère et permet des pluies très violentes. À cause de ces précipitations, les débits des rivières ont aussi été particulièrement élevés. La Loire en France et la Tamise au Royaume-Uni ont atteint leur plus haut niveau depuis 33 ans au printemps et à l'automne. Depuis les années 80, l'Europe se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale et et les événements climatiques extrêmes devraient se multiplier selon les experts climatiques. Pourtant, seule la moitié des villes européennes ont des plans d'adaptation pour y faire face.
Merci Chloé Sénard. Pour émettre moins de CO2, on peut prendre le train, mais encore faut-il qu'il arrive à l'heure. Des centaines d'usagers des lignes Paris-Clermont-Ferrand et Paris-Orléans-Limoges-Toulouse viennent manifester dans la capitale aujourd'hui pour demander des investissements sur ces lignes où les retards et les trains supprimés se cumulent. C'est une décision regrettable qui ne sera pas sans conséquences. Jean-Noël Barrot réagit à l'expulsion de 12 agents français par l'Algérie. Le chef de la diplomatie s'est exprimé sur France 2 ce matin. Il affirme que la France est prête à réagir avec des décisions similaires. Harvard s'oppose à Donald Trump et le paie. L'université refuse de se plier aux injonctions du président américain qui lui demande notamment la fin de sa politique favorisant la diversité. Résultat, l'administration américaine gèle plus de 2 milliards de dollars d'aide à Harvard. Les chercheurs sont aussi dans le viseur de Donald Trump. L'université d'Aix-Marseille veut aider ces chercheurs et propose la création d'un statut de réfugié scientifique. Une proposition de loi a été déposée. Le président de l'université, Éric Berton, explique ce qu'il en attend.
Maintenant, la science est prise pour cible par des régimes autoritaires, au même titre que des expressions, on va dire, divergentes ou des opinions divergentes. Les travaux scientifiques sont souvent devenus une menace pour la stabilité de certains régimes, notamment des régimes autoritaires. Donc, au même titre que les journalistes ou opposants politiques, il me semblait nécessaire que les scientifiques soient reconnus comme des réfugiés à part entière, car menacés parce qu'indépendants. Voilà. Donc, j'ai souhaité qu'on puisse faire évoluer la loi pour l'enrichir d'une protection envers les scientifiques, afin de faciliter l'obtention de visas, le droit à la protection consulaire, un délai accéléré d'examen des dossiers, et faciliter l'accueil des familles.
Éric Berton répondait à Lucie Dupressoir. Vers une victoire historique contre le cancer, le Danemark devrait avoir éradiqué le cancer du col de l'utérus d'ici 2040 grâce à l'adhésion au programme de vaccination HPV et au dépistage. C'est l'annonce de la Ligue danoise contre le cancer et ce serait une première mondiale, Rémi Pfister.
Alors que le HPV est la principale cause du cancer du col de l'utérus, le Danemark a pris les devants dès 2008 en proposant aux filles de 12 ans de se faire vacciner gratuitement contre l'infection au papillomavirus. Grâce aux campagnes d'information et de vaccination menées dans les écoles, la couverture danoise atteint désormais 89% des adolescentes. Conséquence directe, aujourd'hui moins de 10 femmes danoises sur 100 000 développent ce cancer, se réjouit la virologue Hélène Perret de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris.
Le chiffre que présente le Danemark comme couverture vaccinale est le chiffre clé de l'OMS en ce qui concerne la vaccination. En effet, l'OMS parle pour éradication du cancer du col d'une nécessité de 90% de jeunes femmes vaccinées, 70% de femmes dépistées et 90% de traitements des lésions qui auraient été dépistées. Donc on est vraiment sur le chiffre nécessaire à atteindre pour une éventuelle éradication du cancer du col voulu par l'OMS.
En Europe, un autre pays est dans la course à l'éradication du cancer du col de l'utérus, la Suède. Une politique de dépistage renforcée combinée à la vaccination systématique pourrait leur permettre de l'éliminer d'ici 2 ans. La France, avec 50% de couverture vaccinale chez les adolescentes, est encore loin de cet objectif.
Et puis les clubs de foot français en plein stress, c'est aujourd'hui que la Ligue de foot professionnelle et DAZN, le principal diffuseur de la Ligue 1, doivent acter soit la fin de leur collaboration, soit ils doivent décider de continuer, mais sous d'autres conditions.
Et on suivra ça évidemment dans les prochaines éditions sur Radio Classique. Merci beaucoup Virginie Fulpin. À suivre, l'escalade reprend de plus belle entre la France et l'Algérie, l'édito politique de Guillaume Tabar, 8h08 sur Radio Classique.
Après 50 ans de mariage, ma femme, c'était mon repère. Autant vous dire qu'à son décès, j'étais déboussolé. Je ne savais pas vers qui me tourner. Alors j'ai appelé le 3012 Urgence Décès. Un conseiller PFG m'a orienté, puis il s'est occupé de tout.
En cas de décès, appelez gratuitement le 3012. Une équipe Urgence Décès PFG vous répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour une prise en charge partout en France. Urgence Décès 3012, un service PFG.
Carrefour. Quand vous me dites « j'ai prévu 2 paniers pour la chasse aux œufs et je compte bien les remplir », eh bien je vous réponds que pour Pâques, il y a 8 euros offerts en bon d'achat tous les 20 euros d'achat sur tous les chocolats de Pâques, même en promotion. Et c'est dès vendredi et jusqu'à lundi dans vos hypermarchés Carrefour et leur Drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors tablette de chocolat limitée à 3 bons d'achat par foyer valables du 22 avril au 4 mai, modalité complète sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Bonjour, c'est Avru Giri. C'est un bonheur de vous retrouver pour partir ensemble vers le soleil de la Sicile. Palerme et ses palais privés, la somnambule de Bellini au Teatro Massimo et le privilège d'un dîner-concert d'exception au Palazzo Francavilla. Autant de superbes moments de musique et d'émotions partagées avec vous.
Palerme Lyrique avec Eve Ruggieri, du 20 au 25 octobre. Un voyage événement avec Radio Classique et Intermed, le spécialiste du voyage culturel. Réservation au 01 40 08 50 40 ou sur intermed.com.
Lors d'une succession, on découvre des objets accumulés pendant toute une vie. Des trésors dont on ignore que faire. C'est là que Maison Philippe entre en scène.
Ils se sont déplacés, ont estimé avec soin chaque bibelot, objet chinois, livre, tableau, sac à main, argenterie, montre, bijoux en or, même cassé. Et ils ont tout débarrassé. Plus de tracas. Maison Philippe a tout pris en charge et a payé comptant.
Contactez Maison Philippe Antiquité Raspail au 06 07 58 23 23. 106 boulevard Raspail, Paris 6e, métro Notre-Dame-des-Champs.
Waouh ! Pour la troisième fois consécutive, vous avez choisi Action comme enseigne préférée des Français. Merci pour votre confiance et à bientôt dans nos magasins. Action, petit prix, grand sourire.
Et si le meilleur de l'intelligence artificielle était au service de votre métier ? Cegid innove pour élever la performance des entreprises et leur permettre de préparer l'avenir avec confiance. Chaque mercredi à 7h59 sur Radio Classique, retrouvez les dernières innovations pour la gestion d'entreprise avec Cegid et Fabrice Lundy.
Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar sur Radio Classique.
Mais c'est votre canapé qui fait ce bruit.
Vous méritez mieux. Vous méritez un nouveau poltronnet sofa. Avec 30% de remise sur beaucoup de canapés comme en exposition.
Ah là, on entend quel confort. Poltronnet sofa, 30 ans de qualité.
Et voilà.
30 ans de qualité, vérifiez les conditions en magasin.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et à 8h11, l'édito politique de Guillaume Tabar du journal Le Figaro. Bonjour Guillaume.
Bonjour Marc.
L'expulsion par Alger de 12 ressortissants français est une douche froide pour Paris. Est-ce que cela risque de réduire à néant la tentative d'apaisement entre la France et l'Algérie ?
C'est en effet un très mauvais coup de plus porté par les autorités algériennes. Alors, faut-il parler de provocation ou d'humiliation ? En tout cas, que cela intervienne quelques jours seulement après la reprise du dialogue entre les deux pays prouve que le régime d'Abdelmadjid Tebboune n'a pas du tout l'intention de renoncer au bras de fer avec la France. Rappelons que cette décision d'expulsion de 12 fonctionnaires français est censée répondre à la mise en examen à Paris de 3 ressortissants algériens suspectés d'avoir participé à l'enlèvement et à la séquestration d'un influenceur hostile au pouvoir de Tebboune. C'est donc une décision politique arbitraire qui répond à un acte de justice fondé en droit. Alors, l'exécutif se donnait hier 48 heures pour faire reculer Alger et tirer toute cette affaire au clair, sous réserve d'une réponse dont les modalités restent d'ailleurs encore à définir. Mais on est quand même face à une escalade qui risque de réduire à néant les timides avancées de ces derniers jours.
Peut-on parler de camouflet personnel pour Emmanuel Macron, Guillaume ?
C'est à tout le moins un pied de nez magistral fait à celui qui, alors que le chef de l'État, lui, se targuait d'avoir débloqué la situation. Sur les deux piliers de la crise, entre Paris et Alger, la détention arbitraire de Boualem Sansal et le refus de reprendre les ressortissants sous OQTF, il y a d'abord eu, on se souvient, le discours musclé du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et la mise en place, validée par François Bayrou, d'une riposte graduée pour contraindre leurs ressortissants sous régime algérien, appliquer tout simplement les accords de 94, prévoyant le retour de leurs nationaux ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion. Et puis il y a eu ensuite une approche plus diplomatique, pour laquelle Emmanuel Macron s'est mis en première ligne et approche mise en œuvre par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Ce fut le fameux coup de téléphone du 31 mars, de président à président, et la reprise du dialogue, avec à la clé, voulait-on croire, une possible grâce de Boualem Sansal et un respect de l'accord de 94. Eh bien, la méthode douce, si l'on peut dire, n'a pas mieux réussi. La méthode Macron montre ici ses limites.
Ce nouvel épisode peut-il avoir aussi des conséquences de politique intérieure ?
Alors déjà, on voit bien que ce dossier algérien s'invite dans la bataille entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau pour la présidence des Républicains. Le député de la Haute-Loire reprochant au ministre de l'Intérieur de ne pas obtenir de résultats concrets. Mais le camouflet infligé à la méthode diplomatique va rendre de la pertinence à l'approche plus musclée défendue par Retailleau. Ah bien sûr, c'est dans la nature des choses que le Quai d'Orsay pousse ce dialogue à tout prix et que la place Beauvau affiche de la fermeté avant tout. Mais si la France veut vraiment faire bouger Alger, eh bien le premier impératif est que tout l'exécutif, Élysée, Matignon, Quai d'Orsay, Beauvau, soit rigoureusement aligné et interprète exactement la même partition. Et pour l'instant, on n'en est pas encore tout à fait là.
L'édito politique de Guillaume Tabard, comme tous les matins. Merci beaucoup Guillaume. Et à demain, 8h14, tout de suite l'invité de la matinale de Radio Classique. Bonjour Jean-Paul Chang.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes économiste, cofondateur de la Lettre de Chine. 145% pour les produits chinois, 125% pour les produits américains. La bataille des droits de douane se concentre plus que jamais entre Washington et Pékin finalement. Et une question simple pour commencer Jean-Paul Chang. À quoi assiste-t-on en vérité depuis quelques semaines entre les deux pays ?
On assiste finalement à une comédie, hein, pour le moment, c'est vraiment la surenchère verbale, parce que tout à fait entre nous, 125 ou 145% de taux de douane signifie en fait on arrête le commerce, quoi. Ça, c'est totalement irréaliste, c'est-à-dire que personne, aucun décideur finalement dans les entreprises et d'exportation et d'importation ne vont faire quoi que ce soit avec un taux aussi prohibitif. Donc ça a un effet éventuellement très récessionniste, mais précisément parce que c'est irréaliste, on sent qu'en fait ça ne peut pas durer. Donc en fait c'est aussi une posture pour demander des négociations. Alors, le problème c'est que les Américains demandent à ce que les Chinois, Trump il passe son temps à dire que j'attends que Xi Jinping m'appelle, et comme Xi Jinping n'appelle pas, il augmente encore le taux. Or les Chinois ont suivi jusqu'à 125 symboliquement pour montrer que ils n'acceptent pas un rapport de force arbitrairement imposé par les Américains. Et qu'en dehors de ça, à partir de 125% de taux affichés, ils ont fini par dire, écoutez, c'est un jeu de chiffres, ça ne nous intéresse pas, si vous voulez vous continuer à vous amuser, amusez-vous tout seul. Hein. Donc ça signifie que ce n'est pas ce niveau de taux affiché impraticable finalement que les choses vont se passer. D'autant plus que vous savez que les Américains sont revenus, ils ont exempté les ordinateurs portables, les smartphones,
ouais.
Ça représente, suivant les estimations, il y en a qui disent c'est 25, mais en réalité, il y a des gens qui expriment que c'est pratiquement 41% des importations américaines des produits chinois. Vous voyez bien que la réalité est encore très loin, finalement, de la surenchère affichée. Hein. Donc, en fait, le mot négociation reste présent et dans le discours américain et dans le discours chinois. D'ailleurs, le monde entier, en fait, attend finalement qu'il y ait des négociations d'une façon ou d'une autre. Reste à savoir qui, finalement, va trouver la meilleure solution de compromis pour que les négociations sérieuses commencent.
On parle beaucoup de la partition, on va dire, politique, la gestion politique de Donald Trump au gré de ses différentes déclarations. Beaucoup moins sur celle de Xi Jinping. Quelle partition joue le président chinois dans ce bras de fer aujourd'hui ?
Alors, en fait, je pense que la Chine s'est un peu préparée au deuxième mandat de Donald Trump. Il se rappelle finalement des conflits déjà à propos du commerce sino-américain lors du premier mandat. Il y a eu des chocs très durs, aussi des affichages de position, des postures très, très fermes. Et puis finalement, il y a eu des négociations difficiles, certes. Enfin, il y a eu des négociations qui ont abouti en janvier 2020 et ils ont signé les accords à Washington. Le problème, c'est qu'il y a eu le Covid et les deux parties finalement n'ont pas respecté vraiment les promesses contenues dans les accords de l'époque. Mais par cette expérience, les Chinois connaissent un peu l'attitude de Trump ou la nature, disons, de l'équipe Trump.
Pas de surprise.
Ils savent que c'est imprédictible. Il y a beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de surprises. Donc, fondamentalement, je pense qu'ils se sont préparés depuis quelques années déjà, d'une part, à diversifier les marchés d'exportation et à diminuer finalement la dépendance vis-à-vis des États-Unis, ce qui est vrai d'ailleurs, puisqu'ils représentent plus que 11% finalement des importations américaines. Hein. Et maintenant, ils ont développé fortement les marchés en Amérique du Sud ou ailleurs, donc dans le sud-est asiatique aussi.
Bon. On va en reparler justement, oui, de ce déplacement.
Absolument. Et donc, ils se sont préparés, ils se sont donné les moyens finalement de résister à ce premier choc. Deuxièmement, très très vite, après l'annonce des 35%, les premiers 35% ou 50%, les Chinois ont publié un livre blanc. Un livre blanc qui fait une trentaine de pages, qui est intéressant à lire parce qu'en fait, ça analyse en détail chapitre par chapitre, toutes les relations économiques, pas seulement du commerce, mais aussi donc les relations financières, les relations d'interdépendance entre l'économie américaine et tous les points peuvent être discutés. Et le document, qui s'appelle un livre blanc, se termine par « Nous sommes prêts, nous sommes ouverts aux négociations pour cela signifie qu'en fait, ils n'ont pas d'accord sur la définition le mode de calcul des excédents commerciaux, etc., etc. Ils veulent montrer aussi que les entreprises américaines qui ont investi en Chine, qui produisent en Chine et qui distribuent sur le marché chinois, il y a Apple, il y a Starbucks, et combien bien d'autres, il y a Tesla, tout ça. Ces entreprises américaines qui fabriquent en Chine et qui ne sont pas dépendantes donc des droits de douane chinois, vendent sur le marché chinois quelque chose comme 500 milliards. Donc c'est aussi considérable. Hein. Donc les relations ne sont peut-être pas aussi déséquilibrées, au sens des Chinois. Donc ils disent, écoutez, si on s'expliquait calmement, peut-être que... Voilà. Donc en gros, la partition jouée par Xi Jinping, c'est montrer que la Chine finalement est une puissance calme, d'équilibre, et qui ne fait pas de la surenchère dans l'agressivité excessive, mais par contre une position de principe qui consiste à dire toutes les manifestations, disons, irrationnelles, finalement, recevra une réponse ferme. Voilà, mais on sait très bien que c'est irréaliste et que tôt ou tard, il y aura des négociations.
Et Xi Jinping, méthodique, on pourrait finir par résumer cela. Il se rend actuellement en Asie du Sud-Est, on l'évoquait, au Vietnam, en Malaisie, au Cambodge. C'est quoi? C'est une visite de courtoisie? Quelles sont les arrière-pensées dans ces visites?
Alors, La diplomatie vis-à-vis des pays voisins, c'est un élément fondamental de la diplomatie de Xi Jinping, tel qu'il a défini en arrivant au pouvoir. Donc pour lui, il y a la diplomatie des grandes puissances, donc en relation avec les États-Unis, avec l'Europe, avec la Russie, etc. Et tout de suite vient cette notion de diplomatie des pays environnant. Il y a 12 pays qui ont des frontières communes terrestres avec la Chine. Ils ont normalisé donc tout ce qui est, en gros, les tracés de frontières, sauf avec l'Inde encore. Il y a encore des contentieux, mais autrement, je vais dire, et ils ont développé fortement les relations commerciales. Alors, avec les trois pays que Xi Jinping va visiter, à savoir aujourd'hui le Vietnam, ensuite c'est le Cambodge et la Malaisie, ces pays font partie des pays de l'ASEAN. Il faut savoir que l'ASEAN est une zone économiquement de plus en plus intégrée avec l'économie chinoise. Et tous ces pays de l'ASEAN sont excédentaires en termes d'export vis-à-vis de la Chine. Donc, ils bénéficient finalement de la croissance de l'économie chinoise. Et donc, Xi Jinping, il renforce évidemment tous ces liens, parce que l'ASEAN est une zone avec qui la coopération, ça n'a rien à voir avec les années 50 ou 60. À l'époque, c'était une organisation relativement hostile à Pékin. Aujourd'hui, c'est des partenaires commerciaux très importants, et donc c'est normal que Xi Jinping va consolider un peu cet environnement à côté, comme les Américains l'ont fait éventuellement, auraient dû faire avec ses voisins, le Canada ou le Mexique.
Avec l'idée de vendre peut-être les quelques-uns des 340 milliards de dollars de biens qui sont invendables aux États-Unis, est-il est en train de liquider les stocks,
Faut pas aller trop vite, c'est-à-dire qu'en fait... vous parlez finalement des excédents, quoi, sur papier, mais en réalité, il faut discuter, parce que sur ces 340 milliards, les Chinois gagnent très très peu, parce qu'en fait, c'est les produits qui ont été fabriqués dans je ne sais combien de pays avant d'être assemblés en Chine.
D'accord.
Bon, ça, c'est un des points de discussion que les Chinois souhaitent avoir avec les Américains, pour dire, attendez, n'exagérez pas les choses, certes, il y a un excédent en termes de balance de commerciale, mais peut-être il faut aussi regarder le problème sous l'angle de ce qu'on appelle la balance des paiements, c'est-à-dire que prendre les autres éléments. Donc, je pense que c'est des négociations qu'il faut avoir, mais le problème, c'est que si Pékin a probablement une bureaucratie et des équipes très, très rodées, très considérables, ils ont un problème, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression de ne pas trouver de bons... Enfin, de ne pas avoir... Ils ne comprennent pas leur interlocuteur américain aujourd'hui, puisqu'ils ne comprennent pas exactement quelle est la théorie économique qui préside leur pensée, puisque où est passé Ricardo, hein, où est passé tout ça. Donc, ils ne comprennent pas, mais c'est exactement quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? À diminuer finalement ce déficit? Ou à revenir l'industrie aux États-Unis? Mais il y a des buts qui sont réalisables, il y a des buts qui sont pas vraiment réalistes. Hein. Donc, quelque part, il faudrait qu'ils discutent entre eux. Les Chinois peuvent acheter plus, effectivement, de produits américains, que ce soit les produits agricoles ou les produits énergétiques. Encore faut-il qu'il y ait une ambiance de discussion, avec un respect mutuel et avec un souci de bénéfice mutuel.
Parce que s'il y a négociation, vous le disiez, Pékin ne comprend pas actuellement son interlocuteur. Ça annonce des négociations sacrément ardues par la suite.
Ah, mais je pense que de toute façon, ça sera assez chaotique. Mais compte tenu de l'expérience du premier mandat, il n'est pas impossible quand même qu'ils arrivent quand même à des accords. D'autant plus que c'est dans l'intérêt quand même des acteurs économiques des deux pays. Hein. Donc, vous avez énormément de pays. Encore une fois, vous avez des entreprises qui vendent beaucoup sur le marché chinois. Vous avez il y a des entreprises qui ont la garantie de leur marge parce qu'ils importent des composantes de Chine, etc. Les Américains ont besoin de la terre rare chinoise, des terres rares qui sont exportées par la Chine, tout ça. Donc,
les semi-conducteurs aussi, une décision qui sera prise dans les prochaines semaines.
Les Chinois ont besoin que les Américains ne fassent pas le blocus total sur les puces, etc. Donc en fait, ils ont des intérêts quand même qui sont très liés. Très, très liés. Et là-dessus, je crois qu'il faut, calme et raison garder. Il ne faut pas se laisser trop impressionner par la surenchère des discours de part et d'autre. Parce que la réalité des choses, c'est que les deux économies sont vraiment très, très interdépendantes. Et si on veut vraiment tout est tricoté, eh bien, ce n'est pas l'affaire d'un jour.
Merci Jean-Paul Chang d'être venu ce matin sur Radio Classique, économiste, cofondateur de La Lettre de Chine. Excellente journée à vous. Merci d'être venu pour nous raconter justement ces échos de Chine, justement, comment s'est perçue cette guerre tarifaire et douanière. 8h26 sur Radio Classique. Dans un instant, Esprit Libre avec nous ce matin, Cécile Cornudet du journal Les Échos et l'éditorialiste Christophe Barbier. Ce sera juste après le rappel des titres et la revue de presse d'Augustin Lefebvre. À tout de suite.
Cabinet de management de transition, Delville Management accompagne ses clients de manière responsable et durable dans leur transformation à forts enjeux stratégiques. Les managers de transition de Delville Management interviennent dans des situations d'urgence dans le cadre de missions ponctuelles. Et avec Delville Management, retrouvez les entreprises engagées en action chaque vendredi avec Fabrice Lundy dans la matinale de Radio Classique.
Le changement climatique est une réalité, la transition énergétique une nécessité. Pour transporter les gaz renouvelables, l'hydrogène et le CO2, GRT Gaz, opérateur national de transport de gaz, adapte son réseau et devient Natran. Chaque jour dans la matinale de Radio Classique, retrouvez comment j'ai réussi à 6h15 avec Natran. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Cuisine Xina présente son offre, jusqu'à 100% de la pause offerte.
Ah ça c'est bien.
Profitez-en dès maintenant.
Maintenant? Parce que là on est en train de préparer un rôti.
T'embête pas, on prend le rôti avec nous.
Xina, des offres qui ont tout compris à la vie. Voir conditions sur xina.fr.
Radio Classique et la Salle Gaveau présentent Ravel ou le voyage imaginaire. En compagnie de Franck Ferrand et du pianiste Jean-Frédéric Neuburger, venez vivre entre récits et musique toute la féerie et l'émotion envoûtante de l'univers de Maurice Ravel. Ravel ou le voyage imaginaire. Avec Franck Ferrand et Jean-Frédéric Neuburger, un concert Radio Classique mercredi 4 juin, Salle Gaveau à Paris. Réservation au 01 49 53 05 07 ou sur sallegaveau.com.
Mano Mano. Regardez son jardin en friche. Allez sur Mano Mano, chercher une tondeuse, trouver la Makita sans fil à seulement 135 euros, se faire livrer rapidement, passer son samedi au grand air. Vous savez tout. En avril, les prix bas jardin sont chez Mano Mano.
Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire.
Mano Mano. Offre soumise à condition, voir détails sur manomano.fr.
Alors, where is Brian? Où est Brian? Brian in the USA. Brian est aux USA. Where is Jenny? Ben oui, elle est où, Jenny?
Il va falloir réviser votre anglais. En ce moment, avec les essais 100% électriques Ford, tentez de gagner 5 voyages à la découverte de l'Ouest américain. Inscrivez-vous sur Ford.fr.
Ah bah, tous les coups, elle est aux États-Unis. Hey, Brian!
Ford. Jeu valable du 15 mars au 30 juin 2025. Règlements et conditions sur Ford.fr, gratuit sans obligation d'achat. Pensez à covoiturer.
Attention, événement! Radio Classique vous attend pour son grand concert d'été. Un festival d'émotions avec Strauss, Mozart, Bizet, Verdi, Beethoven. Venez écouter le meilleur du classique avec la soprano Angélique Boudeville, la pianiste Chani Di Luca et l'Orchestre National d'Île-de-France, dirigé par Marc Leroy-Calatayud. le grand concert d'été de Radio Classique, animé par Jean-Michel Duez, les 20 et 21 juin au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Réservez dès maintenant au 01 49 52 50 50 ou sur théâtrechampselysees.fr.
Retrouvez le grand concert d'été de Radio Classique avec Échiquier Gestion Privée. Échiquier Gestion Privée, ensemble, faisons grandir votre patrimoine.
Amazon offre à tous les nouveaux parents un mois supplémentaire de congés payés. Comme Antoine qui peut ainsi s'occuper de sa fille. Et pour lui, ce petit gazouillis est le plus beau son au monde. Presque aussi beau que le son de son sommeil. Finalement, c'est peut-être ce duo-là le plus beau son du monde. Amazon offre aux nouveaux parents un mois supplémentaire de congés payés. Sous condition d'éligibilité.
Aesio Mutuelle présente.
Oh, salut Thermos, ça va? On profite de la retraite?
Ah, t'as pas idée, je passe mes journées au bain chaud.
Bah oui, t'as l'air changé, t'es beaucoup plus rouge-violet. C'est nouveau les cloques?
Mais quoi?
T'as une bonne mutuelle, rassure-moi.
Non, je t'ai dit que j'étais à la retraite. Pourquoi?
Non, pour rien.
Ne pas avoir de mutuelle quand on est à la retraite, c'est du passé. Avec Aesio Mutuelle, c'est s'assurer d'une continuité dans sa couverture santé tout au long de sa vie. Aesio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Contactez votre conseiller dès maintenant. Renseignements sur aesio.fr.
7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et à 8h30, le rappel des titres avec Charles Bonner.
Rendez-vous dans une demi-heure. Ministres, parlementaires, syndicats, élus locaux réunis autour de François Bayrou pour une conférence sur les finances publiques. Une alerte sur les déficits et un rappel du besoin de trouver 40 milliards d'euros l'an prochain. L'association des maires de France refuse de s'y rendre, parlant d'une opération de communication. Israël propose un accord de trêve transmis à l'Égypte qu'il a transféré au Hamas. 45 jours de cessez-le-feu contre la libération de la moitié des otages et la démilitarisation du Hamas. Ce dernier point est considéré comme non négociable par le mouvement islamiste qui prévoit de répondre à l'accord après consultation. Et puis ce ne sera pas sans conséquence. Le ministre des Affaires étrangères réagit à l'expulsion de 12 agents français des ambassades et consulats en Algérie. Nous sommes prêts à prendre des mesures similaires, prévient Jean-Noël Barrot, alors que l'Algérie parle d'une décision souveraine.
Merci Charles. Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater dans la presse ce matin? Augustin Lefebvre ouvre les journaux tout de suite. Et bonjour Augustin.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Un avis de recherche à la une des journaux ce matin, il faut trouver 40 milliards d'euros.
Un 4 suivi de 10 zéros. Le Parisien aujourd'hui en France l'écrit en chiffres pour que l'on prenne la mesure des économies nécessaires. Autre résumé en une de l'Opinion. Le dessinateur CAC représente un François Bayrou bedonnant en sauteur à la perche. Après avoir réussi à passer la barre du budget 2025, pas très haute, il demande qu'on lui remonte drastiquement celle du budget 2026. Le Premier ministre prendra en effet la parole en fin de matinée après avoir présidé un comité d'alerte du budget. Il renoue avec ses origines professorales, peut-on lire dans les pages chaumont du Figaro, pour procéder à un exposé incontestable de la situation et faire accepter les mesures à prendre. D'où cette question, en une du Parisien, où trouver 40 milliards? Le journal a quelques idées. Imposer davantage les hauts revenus, baisser les aides à la rénovation énergétique ou celles aux entreprises. De leur côté, les Échos reprennent une note de la Cour des comptes publiée hier qui permettrait de faire 20 milliards d'euros d'économies. Oui, mais voilà, ces idées ne se transformeront pas en mesures politiques, ou du moins pas tout de suite, car aucune annonce ne sera faite aujourd'hui. Le pays s'apprête à entendre que la situation est grave, écrit l'Opinion, et rien de plus pour le moment. Le leader centriste mise sur une stratégie de communication en deux temps, convaincu que pour vendre une réforme, il faut du contexte. Temps 1, dramatisation. Temps 2, il reste à définir. Car, rajoute le quotidien, aucune piste n'est pour le moment acceptable et génératrice de milliards d'euros d'économies, acceptable par la population et surtout par une assemblée fragmentée qui pourrait censurer le gouvernement.
Il y a toutefois une mesure du projet de loi de finances 2026 qui a été présentée hier par François Bayrou. Elle a mis en place d'un fonds de soutien aux communes touchées par des violences urbaines.
Oui, une dépense donc, mais une dépense rendue nécessaire par le fait que les municipalités ont de plus en plus de mal à s'assurer. À cause de ces violences urbaines, des cyberattaques, mais surtout de la multiplication des catastrophes naturelles. En face de la photo de la façade de Matignon, qui illustre l'article sur les économies, le Figaro a placé le cliché aérien d'une commune bretonne entièrement inondée. Et la situation risque de s'aggraver. L'Europe dans l'âge des inondations, titre le Parisien en page 11. Le bilan dressé ce mardi par l'Observatoire européen Copernicus est formel. L'année 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée sur le vieux continent. Mais l'Europe occidentale a aussi subi l'une des années les plus humides depuis 1950 et les crues les plus étendues depuis 10 ans. Et le journal d'expliquer ce lien contre-intuitif, comme c'est parfois le cas avec le dérèglement climatique. De même que l'augmentation globale des températures n'empêche pas des gelées en pleine au printemps, ce réchauffement n'entraîne pas uniquement plus d'épisodes d'aridité, il renforce aussi les précipitations. La raison est simple, pour chaque degré de réchauffement supplémentaire, on estime que l'atmosphère peut contenir 7% de pluie en plus, explique un scientifique. Avec un cercle vicieux, le réchauffement de la température des océans crée plus d'évaporation et donc, in fine, des épisodes de pluie plus violents. Conclusion, désabusés du quotidien, voir des pluies faire sortir les rivières de leur lit et tout emporter, il va falloir s'y habituer.
Un constat permis par la recherche scientifique européenne autour du dérèglement climatique, la recherche mondiale qui pâtit des coupes budgétaires de Donald Trump, Augustin.
Oui, long article sur le site du Monde ce matin. Depuis son retour au pouvoir, le président américain s'en prend à la science. Par volonté d'économie budgétaire, certes, mais aussi par idéologie, contre des chercheurs en santé ou en sciences de l'environnement perçus comme politiquement orientés. Dernier coup porté par la Maison-Blanche, un document budgétaire transmis au Congrès prévoit la fermeture pure et simple du centre de recherche de l'Agence météorologique et océanographique américaine. Et l'onde de choc se fait sentir bien au-delà de son épicentre. Dans le monde entier, le jeu des collaborations internationales transmet la crise comme un virus dans de nombreux pays. Ici, en France, un accord de recherche entre l'INSERM et un institut américain sur l'abus d'alcool mis en pause. Là, des études sur le Covid menées dans plusieurs pays interrompues. Le retrait des États-Unis est lourd de conséquences dans de nombreux domaines où la recherche ne se fait pas état par état, mais de manière globale, comme sur les maladies infectieuses émergentes. Au-delà, les scientifiques du monde entier s'inquiètent de voir suspendu l'accès à certaines bases de données de référence hébergées par des organismes américains. Certes, des copies ont pu être faites, mais elles doivent rester privées et ne sont plus libres d'accès. Les chercheurs américains déplorent ce climat d'incertitude avec des postes ou des bourses supprimées puis rétablies en quelques jours. Certains ont lancé des actions en justice, d'autres s'expatrient. L'université d'Aix-Marseille a ainsi reçu 250 CV. Un dispositif Choose CNRS, choisissez le CNRS, ouais, va être lancé pour attirer des talents en France. Derrière ces questions budgétaires et administratives, des conséquences concrètes pour nos vies, comme la propagation accrue de certaines maladies, ou le temps plus long qu'il faudra pour trouver certains traitements.
Dans ce contexte, vous terminez, Augustin, avec une initiative originale du Printemps de Bourges.
Le festival commence aujourd'hui avec Michel Polnareff, Clara Luciani ou MC Solar en tête d'affiche. Mais les concerts, qui ont été le plus rapidement complets, nous apprend La Croix, sont des spectacles d'un nouveau genre. Des concerts écolos, sans électricité. Pas d'ampoule, mais des bougies. Pas de micro, mais la puissance de la voix. Pas d'amplification, mais des instruments acoustiques. 6 artistes ou formations ont accepté de se prêter au jeu, comme la chanteuse Émilie Loiseau ou la violoncelliste Dom La Nena avec son quatuor à cordes. Alors évidemment, chanter sans micro et jouer sans amplification, c'est la norme du classique, mais c'est pas du tout celle de la plupart des musiques modernes. Cette économie de moyens, à contre-courant des gigantesques tournées des stars de la pop américaine, a une véritable dimension artistique. Elle permet de rapprocher les spectateurs et les artistes. Une piste de réflexion donc, même si le directeur du festival reconnaît que ça n'a aucun sens économique, car seules 60 personnes peuvent assister à chaque concert. D'où l'importance des subventions pour faire émerger ces nouvelles formes culturelles qui deviendront peut-être celles de demain. À l'heure des économies budgétaires, ça sera sans doute dur à entendre pour certains, mais ça ne sera pas à cause du manque de micros.
Pouvez-vous nous rappeler le nom de cette violoncelliste?
Dom La Nena avec son quatuor à cordes, et c'est une belle découverte faite ce matin.
Eh bien, on va continuer de parler de musique classique. Merci beaucoup, Augustin. Après le Printemps de Bourges, le Festival de Pâques à Aix-en-Provence. Nous prendrons la route de la Provence d'ici quelques minutes, avant 9h, pour retrouver Laure Maison qui va nous parler du programme de concerts de musique classique qui vous attendent sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, Esprit Libre, Cécile Cornudet du journal Les Échos, l'éditorialiste Christophe Barbier. A tout de suite, 8h38 sur Radio Classique.
Le changement climatique est une réalité, la transition énergétique une nécessité. Pour transporter les gaz renouvelables, l'hydrogène et le CO2, GRT Gaz, opérateur national de transport de gaz, adapte son réseau et devient Natran. Du lundi au vendredi, dans la matinale de Radio Classique, Natran vous présente le journal de l'écho à 6h47. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Cuisine Ixina présente son offre jusqu'à 100% de la pause offerte.
Ah ça c'est bien.
Profitez-en dès maintenant.
Maintenant parce que là on est en train de préparer un rôti.
T'embête pas, on prend le rôti avec nous.
Ixina, des offres qui ont tout compris à la vie. Voir conditions sur ixina.fr. Ixina.
Deuxième avis ?
Chut, tu fais quoi là ?
Je consulte les astres.
Ah bon ? En plein jour ?
Non, parce que le médecin vient de me dire de me faire opérer, mais bon, j'aimerais bien avoir un deuxième avis quand même.
Et du coup, ils disent quoi les astres ?
Bah d'attendre la nuit, il paraît qu'elle porte conseil.
Bon, ben, attendons.
Attendre des siècles pour obtenir un deuxième avis, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel et deuxièmeavis.fr, obtenez un deuxième avis médical en moins de 7 jours. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Waouh ! Pour la troisième fois consécutive, vous avez choisi Action comme enseigne préférée des Français. Merci pour votre confiance et à bientôt dans nos magasins. Action, petit prix, grand sourire.
Madame Figaro, spécial déco est en kiosque. On s'évade et on prend la direction de Minorque ou encore du Brésil pour des escapades dans des maisons de rêve. Partez à la rencontre des jeunes designers français qui comptent et toujours toutes les nouveautés et les tendances du moment. Madame Figaro, spécial déco, en vente actuellement.
À ce stade de la compétition, tout peut arriver. Le parcours d'une équipe peut devenir une épopée. Une rencontre, un classique. Un joueur, une icône. Cette saison, l'histoire du football s'écrit sur les chaînes Canal+. Suivez les quarts de finale retour de l'UEFA Champions League avec les chocs Aston Villa-Paris-SG ce soir à 21h sur Canal+ Foot et Real Madrid-Arsenal demain à 21h sur Canal+. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Le plus grand événement des solutions pour la planète arrive à Paris. Change Now transforme le Grand Palais en exposition universelle des solutions durables. 3 jours de conférences, de rencontres inspirantes et 1000 innovations à découvrir. Le samedi, job fair, atelier famille, fresques et art pour tous. Entrez dans un monde durable à Change Now du 24 au 26 avril. Informations et réservations sur changenow.world.
Aujourd'hui, Sylviane a le sentiment du devoir accompli. À 78 ans, elle vient de donner un coup de pouce financier à ses petits-enfants. Mais surtout, Sylviane a fait une donation à la Fondation Foch. Elle aide ainsi 300 médecins et chercheurs de l'hôpital Foch à combattre la maladie et soutient une médecine d'excellence au service de tous. Legs, donation, assurance vie, comme Sylviane, soutenez l'hôpital Foch. Appelez le 01 46 25 27 74 ou connectez-vous sur fondation-foch.com.
Peugeot. Vous êtes au volant et vous croisez la Peugeot 208. Vous pensez, pas mal. Et si je vous dis qu'elle est proposée en version électrique, hybride ou essence, et qu'elle est à partir de 170€ par mois, et toujours jusqu'à 8 ans de garantie offerte, là, vous pensez que c'est vous qui devriez être à son volant.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer 2500€ pour une 208 style essence neuve réservée aux particuliers jusqu'au 30 avril, c'est acceptation crédit par. Garantie à l'URCAIR, conditions sur Peugeot.fr. Pensez à covoiturer.
Carrefour. Quand vous me dites « j'ai prévu 2 paniers pour la chasse aux œufs et je compte bien les remplir », eh bien je vous réponds que pour Pâques, il y a 8€ offerts en bon d'achat tous les 20€ d'achat sur tous les chocolats de Pâques, même en promotion. Et c'est dès vendredi et jusqu'à lundi dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors tablette de chocolat limitée à 3 bons d'achat par foyer valables du 22 avril au 4 mai, modalité complète sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Cyrus Erez, gestion de fortune, orchestre votre patrimoine en toute harmonie. Grâce à notre approche en architecture ouverte, votre patrimoine devient une œuvre qui allie sérénité, performance et héritage familial. Ensemble, composons une symphonie patrimoniale qui résonnera aujourd'hui et demain. Cyrus Erez, la gestion de fortune depuis 1989.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
8h42, Esprit Libre sur Radio Classique. Avec nous, Cécile Cornudet, journaliste politique au journal Les Échos et l'éditorialiste Christophe Barbier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Marc.
Attention, soupe à la grimace donc. Hein, François Bayrou organise aujourd'hui son comité d'alerte pour préparer les Français à de nouvelles économies. 40 milliards d'euros pour le budget l'an prochain pour retrouver un déficit à 4,6%. D'un point de vue politique, d'abord, à quoi va servir réellement cette conférence, ce comité d'alerte qui va se tenir ce matin à Matignon?
Il y a le rêve et la réalité.
Oui.
Le rêve, ça serait le surgissement d'une conscience nationale partagée sur le diagnostic et sur les remèdes qu'il faut appliquer. Et derrière, une forme d'union sacrée. Mm-hmm. Des partis qui diraient, oui, la patrie est en danger, les finances sont en danger, on va se mettre d'accord autour d'un budget 2025 d'abord, parce qu'il va falloir le corriger, et 2026 ensuite. Ça, c'est le rêve. La réalité, hélas, c'est que je pense que ça va tourner mal pour François Bayrou, qu'il va être accusé d'abord d'abord par les cibles éventuelles de ces économies. Ça commence avec l'Association des maires de France qui ne se rend pas à la réunion. Nous ne voulons pas être victimes des coupes budgétaires de l'État. Et puis deuxièmement, les partis politiques vont penser non à l'intérêt de la France financier à court et à moyen terme. Les partis politiques vont penser à la présidentielle, comme ils le font depuis 2022 et a fortiori depuis 2024. Ils vont se dire, qu'avons-nous intérêt à provoquer comme crise pour être sûr de gagner ou être plus sûr de gagner que le voisin en 2027. Et je pense qu'une partie de la classe politique va se dire, va falloir faire tomber Bayrou, le gouvernement Bayrou, sur le budget 2026. Et donc on est en train de se préparer un automne de crise politique, censure du gouvernement, chute du gouvernement et peut-être dissolution.
Mission impossible pour François Bayrou.
En tout cas, on va voir qui est ce qu'il a dans le ventre. D'une certaine façon, François Bayrou, aujourd'hui, il fait l'exercice qu'il adore. Il alerte la population sur les dangers de la dette. Il répète souvent que c'est lui qui a mis ce sujet en 2007 dans sa campagne présidentielle, le premier. Donc, il veut créer, effectivement, comme disait Christophe, un choc des consciences. Sa référence, c'est Édouard Philippe sur le Covid, qui avait, avec des graphiques, dit « Regardez, la situation est compliquée, il va falloir qu'on se serre les coudes pour trouver des solutions ensemble. » Après, ça ne vaut que effectivement, si ça prépare les esprits à des efforts, à des choses difficiles derrière. Et ça, c'est la grande inconnue. On sent qu'il y a un peu une différence d'appréciation de ce point de vue entre Emmanuel Macron et François Bayrou, sauf que dans la situation actuelle, je pense que c'est quand même plus François Bayrou qui va trancher et décider. Est-ce qu'il y aura une désindexation des retraites? Est-ce qu'il y aura, on touchera aux APL? Est-ce qu'on touchera aux niches fiscales? Donc, il y a tout un package de mesures difficiles à prendre. Est-ce que François Bayrou sera capable de les prendre ou est-ce qu'en réalité, son exercice d'aujourd'hui sert surtout à gagner du temps, à ne décider qu'en juillet pour espérer reporter le risque de dissolution à plus tard?
L'exécutif qui change de méthode, il y a une idée de co-construction, il y a eu cette réunion hier avec les chefs d'entreprise.
La co-construction des partenaires sociaux, est-ce que vous avez déjà vu une mesure courageuse sortir d'un conclave de partenaires sociaux ou d'hommes politiques, puisque c'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire, mettez-nous des propositions sur la table, comme ça, vous les aurez portées, et nous, on choisira parmi elles. Jusqu'à présent, on ne voit pas quelle solution ça peut être.
On recule donc, hein, finalement, c'est à peu près le constat, Christophe Barbier, c'est pour reculer l'échéance.
On verra tout à l'heure, oui. Parce que ce moment est quand même très important. C'est une journée très importante pour François Bayrou. Le constat, la dramatisation, ça ne s'agite pas. On ne doit pas faire comme ça des postures politiques. S'il arrive à se hisser au-dessus de la posture, il n'aura pas perdu sa journée. Et il renverra finalement la balle de la responsabilité dans le camp de ses opposants. Et là, il aura marqué son territoire. En revanche, on attend quand même des pistes de solutions aujourd'hui, et là je crains qu'on soit déçu. Parce qu'on sait que François Bayrou doit gagner du temps, veut gagner du temps, et qu'il va renvoyer le plus loin possible, sans doute à l'automne, les choix concrets. Est-ce qu'on touche aux retraites? Est-ce qu'on désindexe les retraites par rapport à l'inflation? Il y a beaucoup d'économies à faire. Est-ce qu'on touche aux niches fiscales, c'est-à-dire une augmentation d'impôts déguisée? Est-ce que, par exemple, on supprime MaPrimeRénov? Est-ce que l'on touche au remboursement de sécurité sociale en disant, ben voilà, vous allez payer plus pour votre santé parce que l'État ne peut pas se substituer à vous? Est-ce qu'il ouvre des pistes concrètes de ce côté-là? La seule piste dont on a vaguement entendu parler, c'est les collectivités locales, qui ont déjà crié avant d'avoir mal. Mais pour l'instant, on n'entend rien de concret. Le chirurgien nous dit « le malade va mal », mais il ne nous montre pas ses outils.
Et alors, en privé, François Bayrou dit « vous vous trompez complètement sur moi, ce n'est pas l'immobilisme, je vais faire, je m'en fiche si je suis censuré, je m'en fiche si je ne dure pas, vous allez voir ce que vous allez voir ». Donc, on va voir.
De l'audace.
Voilà.
On va voir s'il y a de l'audace.
Il le promet parce qu'il n'aime pas cette petite musique sur lui. Mais tout son passé, à chaque fois que François Bayrou est venu dans le débat public depuis 30 ans, c'était pour dire « oh, halte là, par exemple, Emmanuel Macron, après 2022, il voulait faire passer l'âge de la retraite à 65 ans. C'est lui qui a dit non, c'est trop 65 ans, faisons 64 ans. À chaque fois, c'était du moins 10 ans. Donc là, est-ce qu'il est capable de faire du mieux 10 ans? On aura quand même, je pense, un début de réponse aujourd'hui. La tonalité sera importante à regarder.
A priori, il n'y aurait pas d'annonce, hein, Matignon l'a plus ou moins annoncée.
C'est logique. Ouais. On est dans un premier moment. C'est logique de ne pas faire des annonces. Attention, il faudra des annonces assez rapides sur le budget 2025. L'exécution de ce budget est impossible. Les chiffres promis, le 5-4 de déficit, la croissance interdue, tout ça est caduque. On a eu 5 mois de crise politique pour accoucher d'un budget qui est un budget morné, ou quasiment morné. Et donc, il faut tout de suite réagir. Rappelons-nous qu'en 2024, ne pas avoir fait de loi de finances rectificative, avoir mis la poussière sous le tapis parce qu'il y avait les européennes, ça a coûté très cher au gouvernement Attal. Sa disparition, ça a coûté surtout très cher à la France.
Alors, il ne veut pas de loi de finances rectificative et ils vont annoncer au fur et à mesure des
correctifs,
des gels, des correctifs, comme ils viennent de le faire, 5 milliards là, de réserve. Parce qu'en réalité, je pense que le calcul de François Bayrou, c'est que à l'automne, il n'y aura pas de censure, parce qu'on sera à la veille des municipales, que ce sera plus compliqué. Moi, je pense que au contraire, hein, la veille des municipales peut-être aiguisera les politiques, mais en tout cas, c'est son calcul. Oui. Et donc, il veut pas prendre le risque maintenant. C'est pour ça qu'il veut pas de loi de finances rectificative, et pour ça que les annonces sont plutôt attendues vers juillet, sans session extraordinaire, donc des annonces qui sortent comme ça, et après on part sur l'automne. Et pour ça aussi que les... Vous savez, sur le conclave retraite, il a beaucoup dit après il y aura une loi pour mettre en œuvre les décisions qui seront prises. On pensait que cette loi serait faite en juin. En fait, manifestement, c'est plutôt septembre. Donc tout est reporté à l'automne avec l'idée que ce sera plus compliqué de censurer à ce moment-là. C'est un gros pari.
Alors l'autre fait du jour, c'est la parenthèse qui n'a duré qu'une petite semaine. Le bras de fer repart entre la France et l'Algérie. Trois ressortissants algériens en détention en France après l'enlèvement d'un influenceur opposé au régime. En réponse, 12 agents de l'ambassade française à Alger sommés de faire leurs valises. Emmanuel Macron, pour l'instant, n'a pas donné de réponse. Il se donnait 48 heures pour en donner une. Que peut bien faire l'Élysée dans tout cela ? Christophe Barbier.
Il faut d'abord sortir de l'escalade. Je t'en attrape un, tu m'en expulses 12, tu m'en expulses 12, oui. Je t'en expulse 20. Ça peut être sur le terrain économique, ça peut être d'autres messages diplomatiques. Il faut pas perdre de vue que le réchauffement entre Alger et Paris la semaine dernière, c'était pas un simple réchauffement de façade. Allez, bon, on siffle la fin de la récréation, on siffle la fin des chamailleries. Non, c'était la volonté profonde de deux présidents de se dire... À terme, on est tous les deux perdants si ça s'envenime. Donc, on a joué notre jeu de politique intérieure. Retailleau son jeu, Tebboune son jeu. Pour des raisons chacun de politique intérieure, on va voir plus loin. C'est ça qui a été brisé par un fait démocratique qui s'appelle l'indépendance de la justice française et qui a arrêté, en effet, un membre du consulat algérien. À partir de là, faut garder cette vision longue et dire, à long terme, il faut qu'on s'entende. Le long terme... Comme son nom l'indique, c'est pas demain matin, donc on peut repartir dans un jeu de chamaillerie. Je note quand même que depuis ce nouvel incident, Bruno Retailleau n'a pas repris la parole sur la méthode dure. Pourtant, il était au Maroc, ça aurait été évidemment très intéressant pour lui, il aurait pu en profiter. Il voyait que les diplomates étaient en difficulté sur leur ligne douce, il aurait pu prendre son bénéfice. Il ne l'a pas fait, en partie à mon avis, parce que ça donne du grain à moudre à Laurent Wauquiez qui le pousse au crime de ce côté-là, en lui disant « mais vas-y, monte ta fermeté !» Et donc, il n'a pas voulu donner une arme à Wauquiez, en partie aussi peut-être parce que l'Élysée et le Quai d'Orsay ont vraiment repris la main.
Et beaucoup parce que l'Algérie pense que c'est Bruno Retailleau qui est derrière tout ça. C'est devenu la bête noire du gouvernement. C'est vrai que ça n'a rien à voir, cette arrestation, avec Bruno Retailleau. Et manifestement, dans toutes les explications données par l'État algérien, c'est Bruno Retailleau qui visait. Il pense que c'est lui qui est derrière cette accélération de la justice. Donc, je pense qu'il se tait. Je pense que c'est pour ça aussi que Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, prend la parole ce matin en disant c'est Bruno Retailleau n'a rien à voir dans l'affaire. C'est une histoire totalement indépendante de notre volonté. Mais moi, je trouve que le court terme est assez inquiétant. En gros, l'Élysée a fait savoir hier qu'il se donnait 48 heures pour prendre des mesures. Pourquoi ? Parce qu'il pensait que dans ces 48 heures, l'Alger baisserait d'un ton. Or, ce matin, 24 heures après, non. Alger maintient son envie d'expulser les 12 diplomates français, donc conduit presque automatiquement à la recherche d'une réplique française. Ce qui est dans les tuyaux, c'est aussi d'expulser 12 diplomates algériens. Donc là, on part dans l'escalade dont parle Christophe. Donc voilà, c'est quand même un mauvais moment... là, et surtout, c'est Dualem Sansal qui se retrouve à nouveau la victime collatérale d'un débat qui n'en finit pas entre les deux pays.
Dualem Sansal, justement, c'était au cœur des discussions entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune. on recommence à zéro, on va se prononcer.
Et puis sur la grâce qu'on attend du président algérien, on sait qu'il y a des rendez-vous, notamment début juillet, des rendez-vous classiques de grâce en Algérie, dont pourrait profiter Boualem Sansal. Mais évidemment, 2 mois, 3 mois, c'est beaucoup pour un homme de son âge injustement malade. Détenu.
Injustement détenu. Donc on va suivre évidemment ce qui va se passer entre la France et l'Algérie tout au long de cette semaine. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Cécile Cornudet du journal Les Échos, Christophe Barbier, éditorialiste. Esprit libre un peu plus court puisqu'on va faire un petit détour ce matin par Aix-en-Provence, le festival de Pâques toute cette semaine sur Radio Classique. Il diffuse plusieurs concerts du mythique festival de musique classique Aix-en-Provence où vous trouvez Laure Maison. Bonjour Laure.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Bon alors un peu de pluie ce matin, mais de formidables représentations. Vous avez bien de la chance. Comment se sont passés ces premiers jours de festival, Laure ?
Alors le festival a débuté vendredi soir et nous avons déjà pu profiter sur notre antenne de moments assez exceptionnels. Alors il y a eu ce concert d'ouverture avec Martha Argerich qui a plus de 80 ans et toujours aussi vaillante, toujours aussi espiègle. Et elle était dirigée par Renaud Capuçon. Renaud Capuçon qui, pour ce concert d'ouverture, avait choisi de troquer l'archer pour la baguette. Et puis il y a eu aussi dimanche cet extraordinaire voyage dans l'univers de Ravel, toute son œuvre pour piano qui a été jouée par Bertrand Chamaillou et qui nous a dévoilé des couleurs, des textures absolument inouïes sur son piano qui sonnait parfois comme un orchestre. Ce sont deux concerts qui ont connu un très vif succès et que vous pouvez d'ailleurs réécouter en podcast sur notre site. Et puis nous avons eu également l'occasion d'échanger avec différents artistes, différents acteurs du festival, je pense à David Frey ou Dominique Bluzet, qui œuvrent également pour ce volet solidaire du festival, qui développe des projets particulièrement originaux et très touchants.
Alors, quel est le programme des prochains jours, Laure ?
Alors, de beaux programmes, avec déjà ce soir un concert que nous diffuserons sur notre antenne d'un jeune et formidable ensemble, Jupiter, que dirige Thomas Dunford, avec la merveilleuse Léa Desandré. Ils nous offriront un florilège d'air de Handel. Mercredi soir, ce sera Les Vêpres de Monteverdi, donc l'un des grands chefs-d'œuvre du répertoire sacré, par l'ensemble Gemelli, qui vient de nous offrir un enregistrement remarquable. Et puis vendredi, c'est l'incontournable Passion. Cette année, c'est la Saint-Mathieu, qui sera dirigée par Thibaut Noilly. C'est un moment en général très attendu de nos auditeurs et vous pouvez rien qu'à l'écoute de ces premières notes en percevoir les frissons. Et c'est un moment qu'on adore aussi avec les équipes techniques de Radio Classique parce que vivre cette passion, l'enregistrer, la mixer, la présenter, c'est très émouvant et très exaltant. Et on adore ça tous les ans.
Et on va l'écouter justement, ce cœur d'entrée de Saint-Mathieu. Le cœur d'entrée de Saint-Mathieu, l'orchestre Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon dans cette version-là. Ce sera donc vendredi soir. Avant cela, alors Handel, donc sous la direction de l'ensemble Jupiter, Léa Desandré, donc ce soir en direct à partir de 20h30 sur Radio Classique. C'est bien ça ?
C'est ça, de grands moments d'émotion, de frissons qu'on se réjouit de vivre avec les auditeurs de Radio Classique.
Et on se réjouit également. Bonne journée, bonne soirée. Laure, à très vite sur Radio Classique, bientôt 9h. Dans un instant, le Flash et Franck Ferrand.
Alors, where is Brian ? Où est Brian ? Brian in the USA. Brian était aux USA. Where is Jenny ?
Ben oui, elle est où, Jenny ?
Il va falloir réviser votre anglais. En ce moment, avec les essais 100% électriques Ford, tentez de gagner 5 voyages à la découverte de l'Ouest américain. Inscrivez-vous sur Ford.fr.
Ah bah, tous les coups, elle est aux États-Unis. Hey, Brian !
Ford. Jeu valable du 15 mars au 30 juin 2025. Règlements et conditions sur Ford.fr, gratuit sans obligation d'achat. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Un secret inavouable, une passion interdite, une farce endiablée. Dans Il Trittico, œuvre à 3 brefs opéras, Puccini excelle aussi bien dans la comédie que dans le drame.
Portés par la saisissante soprano Asmik Grigorian, ces airs, souvent entendus au cinéma, sont à découvrir à l'Opéra Bastille du 29 avril au 28 mai. Réservation sur opéradeparis.fr.
Le Festival de Saintes vous embarque pour un voyage musical de 8 jours aux quatre coins du monde classique. Avec un récital lyrique de compositrices italiennes du XVIe siècle, un détour flamand par Ophélie Gaillard, Bach et Lotti à l'heure suisse avec Liangeli Genève, les arts florissants en territoire allemand et les grandes heures symphoniques de Beethoven à Dvorak. Le Festival de Saintes, un univers musical à vivre intensément du 12 au 19 juillet. Détails sur abbayeauxdames.org.
Dans un instant, le flash de 9h et Franck Ferrand sur Radio Classique.
Mais c'est votre canapé qui fait ce bruit.
Vous méritez mieux. Vous méritez un nouveau poltronnet sofa. Avec 30% de remise sur beaucoup de canapés comme en exposition.
Ah là, on entend quel est confort. Poltronnet sofa, 30 ans de qualité.
Et voilà.
30 ans de qualité, vérifiez conditions en magasin.
La météo, bonjour Chloé Sénard.
Bonjour, bonjour à tous.
Le temps continue de se dégrader.
Oui, avec de fortes perturbations aujourd'hui, beaucoup de pluie sur le centre-est et les Cévennes. Un temps instable aussi près de la Méditerranée, sur la région Rhône-Alpes avec des averses. Les températures matinales vont de 8 à 15 degrés du nord au sud. Dans l'après-midi, on attend même des orages, notamment dans le centre-est et le sud-est, de la pluie.